Voilà, je vous propose de commencer cette soirée en nous confiant simplement à l'Esprit Saint, en reprenant le refrain « Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, tu as été répandu en nos cœurs, toi qui sondes le mystère de Dieu. Viens remplir nos esprits, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos mémoires. Donne-nous en ce temps de carême de nous ouvrir à la bonne nouvelle pour savoir en rayonner auprès de nos frères. Donne-nous de pénétrer ce mystère de la création de l'homme et de la femme, ce mystère de leur union. Qu'en entrant plus profondément dans le projet du Père, nous puissions vivre notre condition d'homme et aider nos frères et nos sœurs à la vivre et à en rayonner. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Veuillez vous asseoir. On pourrait se demander pourquoi s'interroger sur cette question en carême, homme et femme, il les créa, pourquoi cette question particulière. On peut se souvenir que le carême, c'est le moment qui nous est donné pour vivifier l'alliance avec le Seigneur. Or, depuis le prophète Osée, au 8e siècle avant la naissance de Jésus, l'image privilégiée pour parler de l'alliance avec Dieu est celle du mariage. Dieu veut aimer son peuple comme un époux son épouse. Vous vous souvenez peut-être de ces paroles rapportées par le prophète Osée, je cite, c'est au chapitre 2, le verset 18, « Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal. » Je te fiancerai à moi pour toujours, dit le Seigneur. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Voilà qu'il y a une rupture qui s'est faite dans l'histoire des religions. Pour la première fois, on parle d'un Dieu qui aime son peuple. C'était normal que le peuple, que les hommes aiment Dieu, mais c'était tout à fait anormal que Dieu puisse éprouver de l'attrait pour sa créature. C'est pas le même niveau. Et voilà donc l'image qui est prise, l'image de l'homme et de la femme, de l'union de l'homme et de la femme. Donc qui veut vivifier son alliance avec le Seigneur doit entrer dans l'image que le Seigneur lui donne. Et pourtant, on voit que c'est une relation qui est difficile à comprendre. Nous avons des textes dans l'Écriture qui aujourd'hui choquent nos oreilles. Vous avez certainement en mémoire ce texte d'Éphésiens 5 où l'on nous dit que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Voilà, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église. L'Église se soumet au Christ, les femmes donc doivent et de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Bien, si on prend Saint Paul dans la première épître à Timothée, pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme, qui séduite, se rendit coupable de transgression. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Voilà, la conférence est finie, nous pouvons repartir avec ces bonnes réflexions. Mais nous voyons donc que voilà, ces phrases, non, mais est-ce qu'elles sont toujours actuelles? Comment est-ce qu'il faut les comprendre? Eh bien, nous allons essayer de revenir justement à ce que le Seigneur a voulu révéler à son peuple et de nous rendre compte que ce qu'il nous révèle n'est pas un sujet d'asservissement, n'est pas un sujet d'humiliation, mais bien au contraire un sujet de fécondité. Et c'est peut-être un sujet qui est d'autant plus actuel aujourd'hui que le rapport, on ne sait plus trop aujourd'hui ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. On nous parle de genre même liquide, que l'on pourrait changer au gré de notre humeur. Parler d'une union et d'une union indissoluble, cela semble aller contre la rationalité. Donc nous voulions proposer, le père Vincent de Mello et moi, de ressaisir ce dessein de Dieu pour vivifier notre alliance avec lui. Parce que c'est une image que Jean-Baptiste avait déjà réévoquée en se présentant comme l'ami de l'époux. Il n'est pas le Christ, il est l'ami de l'époux, présentant ainsi le Messie, le Christ, comme l'époux. Jésus lui-même va utiliser cette image. Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Voilà, c'est pour ça que nous vous proposons trois soirées. Une première soirée aujourd'hui, avec le thème « Hommes et femmes dans le dessein de Dieu ». Une deuxième soirée la semaine prochaine, « Fécondité et blessure de l'homme et de la femme ». Et puis, dans 15 jours, « Féminité et masculinité sauvées ». Aujourd'hui, nous revenons, du coup, nous allons nous appuyer tout particulièrement sur les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur Jésus lui-même remonte à ces chapitres pour parler de l'union de l'homme et de la femme. Vous savez, on l'interroge, on veut le mettre à l'épreuve autour de la question du divorce. Moïse nous a dit qu'on pouvait répudier sa femme en lui donnant un acte de répudiation. « Toi, que dis-tu ?» Et Jésus va revenir et insister par deux fois, à l'origine, il n'en était pas ainsi. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Alors, remontons du coup à ces textes de l'origine. Je vous parlerai, moi plus particulièrement, du chapitre 1, et le père de Mello vous parlera plus particulièrement du chapitre 2. Vous allez dire, mais tiens, c'est étrange ça. On a deux récits de création. Oui, on a deux récits de création. Petite clé de lecture, simplement. Dans l'Écriture, lorsqu'on a deux récits qui semblent traiter de la même chose, généralement le deuxième est un zoom sur un élément du premier. L'Écriture, elle enseigne par des récits. Et pour enseigner avec des récits, il faut bien que les récits aient un commencement et une fin, sinon on ne sait jamais les interpréter. Donc, l'Écriture donne de petits récits, et a choisi, du coup, de placer l'un avant l'autre, l'autre avant l'un. Et c'est pas un hasard. Et donc, on a voulu entendre d'abord Genèse 1, avant qu'on entende Genèse 2, alors que le texte de Genèse 2 a été composé avant. Il est plus ancien. Donc on a voulu que ce qui est dit au chapitre 2 ait été précédé de quelques éléments, de quelques clés qui doivent nous être données. Voilà, alors je vous ai fait distribuer une feuille où vous avez quelques versets du premier chapitre. Et je voudrais d'abord commencer à partir du verset 26, donc on est en plein milieu. Et je vous cite ce passage, je vous lis ce passage. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Alors je m'arrête ici parce que il faut d'abord faire une remarque que la traduction française écrase une réalité du texte hébreu. En français, on a une ambiguïté entre homme humain et homme masculin. On ne sait pas toujours, et puis quand on dit les hommes, ça peut être les hommes et les femmes. En hébreu, lorsqu'on lit ceci, Dieu dit « faisons l'homme », c'est en fait « faisons l'Adam ». Je ne dis pas Adam. Adam deviendra, on pourrait dire, un prénom plus tard. Pour le moment, c'est l'Adam. L'Adam, c'est celui qui est tiré de la Adama, la terre. Et donc, l'Adam, on n'a pas précisé, là, est-ce qu'il est homme, femme, masculin, féminin ? Là, on ne le sait pas, c'est l'Adam. Le projet de Dieu, faisons l'Adam à notre image, comme notre ressemblance. Et ensuite, le verset 27, on voit Dieu créa l'Adam à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Alors, faisons encore une petite pause. Vous vous souvenez précédemment de comment le texte avançait, et puis vous l'avez là pour le début du cinquième jour, Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Voilà comment ça se passait. Dieu dit, et cela est. Lorsqu'on arrive à la question de l'homme et de l'homme et de la femme, il n'en va pas ainsi. Tout d'un coup, on a accès à la délibération de Dieu. On a Dieu qui réfléchit devant nous. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Vous allez me dire, en quoi c'est important ça ? C'est important parce que cela nous dit que ce que l'on va voir de l'homme et de la femme, ce ne sera pas le fruit d'un heureux hasard, mais ce sera le fruit d'une volonté explicite, réfléchie de la part de Dieu. Donc ce qui va advenir, ce que l'on va décrire de l'homme et de la femme, ce n'est pas un heureux hasard. « Oh, ils vont être à mon image. Oh là là, quel heureux hasard, j'y avais pas pensé, mais c'est pas mal finalement. » Non, il y a une volonté explicite de Dieu qui va distinguer, du coup, parce qu'on ne dit nulle part ailleurs que les êtres, les bestioles de la terre, de la mer ou du ciel soient créés à l'image de Dieu. C'est une volonté explicite. Donc il y a quelque chose qui va toucher, et là qui va toucher immédiatement, et l'homme et la femme. Vous voyez, on nous dit, quand il les créa, à l'image de Dieu, il le créa, la dame, mâle et femelle, il les créa. Donc on voit dans la délibération de Dieu et dans l'action de Dieu une simultanéité, une volonté qui couvre et le masculin et le féminin, et l'homme masculin et la femme. Tous deux sont à l'image de Dieu. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que l'homme masculin est à l'image de Dieu, que la femme est à l'image de Dieu, mais que les deux ensemble vont nous donner une image plus profonde de Dieu. Ils vont nous donner une image plus profonde de Dieu. Vous voyez, chacun est à l'image de Dieu, mais les deux ensemble vont donner à toucher quelque chose de plus profond de l'image de Dieu. Quelque chose qui ne serait pas visible, qui ne serait pas perceptible. Il y aurait un manque à cette image sans cela, sans la présence de Dieu. Sans la présence des deux, pardon. Et plus encore, on va se rendre compte que cette image de Dieu, remontons un petit peu au verset 26, il y a quelque chose de très étonnant dans le texte. Dieu dit « faisons ». On a l'habitude de le lire, on ne réagit plus. Dieu dit, faisons. Les Juifs, c'est quand même les champions du Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, et qui sont allés casser les pieds des peuples autour d'eux, en leur disant, vos dieux ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas toujours bien reçus quand ils disent ça, mais ils l'annoncent pourtant fortement. Vos dieux ne sont pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je suis le Seigneur un. Dans le livre du Deutéronome, vous voyez, dans le chemin Israël, on annonce « Je suis le Seigneur un » et on l'écrit en plus gros. Et tout paisiblement, Dieu dit « faisons ». C'est quand même un magnifique pluriel. Pourquoi est-ce qu'il y a un pluriel comme ça ? Et puis on pourrait creuser en plus. Le texte, ici, utilise le nom de Dieu tout au chapitre 1. Et ce nom de Dieu qui est utilisé, c'est Elohim. Oui, ok, Elohim. Elohim, c'est un peu particulier parce que ça désigne Dieu, mais c'est un nom, en fait, dont la forme est plurielle. Le Dieu un est désigné par une forme plurielle. Alors ça, ça fait la joie des pères de l'Église en relisant justement l'Ancien Testament et en y découvrant ici une préfiguration du mystère de la Trinité. Voilà que le Dieu unique n'est pas un Dieu solitaire. Le Dieu unique est un Dieu qui va se révéler communion et même communion d'amour. Mais du coup, ça a une portée pour ce qui est créé à son image. Si Dieu est une communion d'amour, alors l'image de Dieu, elle aussi doit porter cette réalité de la communion d'amour. Et donc cette communion d'amour, elle va être portée justement par cette particularité de créer homme et femme. L'image de Dieu ne sera pas seule. Pour aimer, il ne faut pas être seul. Homme et femme. Ça va même, introduire une interrogation. Et là, le mystère de la Trinité, doit être introduit un peu plus profondément, en se disant, dans le mystère de la Trinité, c'est l'union du Père, du Fils, dans l'Esprit Saint. Alors, l'union de l'homme et de la femme, c'est pas seulement l'union de l'homme et de la femme, il doit y avoir une intervention de l'Esprit Saint aussi. Si ça doit être à l'image de Dieu, elle ne se perçoit pas sans une intervention même de Dieu lui-même, pour que advienne justement cette communion. Le rapport de l'homme et de la femme, ça ne va pas être un rapport de fusion, ça va être un rapport de communion. Quelle est la différence? Quelle est la nuance entre les deux? Faisons un peu de science physique. Vous avez deux métaux, voilà, vous les chauffez bien fort, ils entrent en fusion tous les deux, vous les mélangez. Vous avez obtenu un alliage. Mais cet alliage, c'est plus le métaux A, c'est plus le métaux B, c'est autre chose. On a perdu la singularité des deux. Quelque chose d'autre qui est advenu, mais on a perdu la singularité des deux. Une communion, c'est une union qui conserve la singularité de chacun. Une communion, c'est une singularité, c'est une union pleine et entière qui conserve la singularité de chacun. Vous voyez, sur cette terre, il y a une image un peu concrète qui peut nous aider à le percevoir. C'est, vous vous amusez avec deux bougies, vous les allumez, puis vous rapprochez les flammes. Vous avez une seule flamme, et pourtant la distinction entre les deux n'a pas été effacée. Donc faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, c'est pour une communion, c'est-à-dire cette union qui respecte, qui n'efface pas, qui n'écrase pas la singularité. Alors il y a une responsabilité qui est donnée. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Voilà, il a une autorité sur la création. La création est confiée à l'homme et à la femme. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'homme qui recevrait cela, mais c'est les deux ensemble qui le reçoivent. Et d'une certaine manière, ça signifie aussi que dans leur manière d'exercer cette responsabilité, s'ils excluaient l'un ou excluaient l'autre, il y a quelque chose d'incomplet alors dans la mission, dans la façon d'accomplir la mission que Dieu a confiée. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. L'homme en est le gérant. Et pour en être le gérant à l'image de Dieu, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il l'exerce, homme et femme. Se dominer, se soumettre est aussi une mission à accomplir avec une collaboration du génie masculin et du génie féminin. Notez encore que les deux sont donc bénis. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. Je voudrais souligner encore une chose qui, nous prépare à entrer dans ce mystère, c'est que l'homme et la femme apparaissent comme un interlocuteur de Dieu. Si vous montez un peu plus haut, au verset 22, vous allez voir qu'au cinquième jour, Dieu avait béni les êtres vivants. Il les avait bénis. Soyez féconds, multipliez, emplissez, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il les bénit, mais il dit, Tandis que, quand il s'agit de l'homme et de la femme, il leur dit, Dieu s'adresse à eux. Il y a une capacité, et en l'homme et en la femme, d'accueillir cette parole de Dieu, d'être des interlocuteurs de Dieu. On pense que c'est une chose naturelle. Il n'est pas si simple, il n'est pas si évident d'être capable de Dieu. Hommes et femmes sont capables de Dieu. C'est ce qui nous est révélé ici. Il leur dit, ils sont des interlocuteurs, ils sont tous les deux aptes à recevoir la parole de Dieu et donc à en être les gardiens. Relevons encore une chose à travers ce texte. Dans le projet de Dieu et ce que Dieu fait, il manque quelque chose. Je ne sais pas si ça vous a sauté à la figure lorsque vous l'avez lu, mais Dieu avait dit « Faisons l'homme, la dame, à notre image comme notre ressemblance. » Et au verset 27, « Dieu créa la dame à son image, à l'image de Dieu il les créa, hommes et femmes il les créa. » Mais où est passée la ressemblance? Où est passée la ressemblance? Alors, soit vous allez me dire, bah, il a oublié. C'est un peu compliqué de la part de Dieu de dire, Dieu a oublié. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui oublierait? Alors, s'il l'a pas oublié, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait? Il n'avait pas la puissance de le faire? Alors non, c'est en fait une autre réalité. S'il ne l'a pas fait, c'est que justement, la ressemblance ne pouvait pas se faire par avance. Dieu crée la dame, donc crée homme et femme, d'une certaine manière inachevée, parce que la ressemblance, pour qu'elle advienne, se fera par l'implication de leur volonté et la collaboration de leur volonté. Comment cela ? La ressemblance avec Dieu, c'est quoi ? C'est de pouvoir vivre comme Dieu vit. C'est quoi la vie de Dieu ? C'est une communion d'amour. C'est une communion d'amour. Or, il n'y a pas d'amour sans liberté. Il faut qu'il y ait un exercice libre de la volonté. On peut forcer des gens, entre guillemets, à manifester des signes d'affection. Vous leur mettez un pistolet sur la tempe et vous leur dites, tu l'embrasses, lui, alors je vais l'embrasser. Tu lui caresses la joue, bon, je vais lui caresser la joue, mais je n'aime pas. Personne ne peut forcer l'amour. On peut forcer des gens à faire des gestes de tendresse. On peut même programmer un robot pour le faire. Un robot n'aime pas. Il y a quelque chose de mystérieux et du coup aussi qui provoque l'émerveillement dans l'amour. C'est justement que ce n'était pas un mécanisme déterminé. Et donc, Dieu va créer l'Adam, mâle et femelle, inachevé, ce qui signifie, non pas parce qu'il leur manque quelque chose, mais parce qu'ils vont avoir la place pour exercer leur libre volonté afin d'aimer. La liberté est une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour aimer. Et donc Dieu crée cet espace. Et c'est pour cela que, alors que dans les jours précédents, on avait dit à chaque fois, Dieu vit ce qu'il avait fait, et Dieu vit que cela était bon. Et vous avez remarqué, après la création de l'homme et de la femme, on ne dit pas immédiatement, Dieu vit que cela était bon. Non, ça ne nous est pas qualifié. En revanche, ce qui est qualifié, c'est Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et d'une certaine manière, donc, ce contexte de la création où l'homme et la femme auront à exercer leur liberté, eh bien cela n'est pas seulement bon, cela est très bon. Ce contexte où l'homme et la femme auront à exercer leur liberté pour advenir à la ressemblance est très bon. Puisque nous avons dit cela, rendons-nous compte que l'exercice de cette image en vue de la ressemblance va impliquer l'homme et la femme dans leur corporéité. Vous voyez, l'image de Dieu va toucher l'homme et la femme jusque dans la réalité de leur corps. Et c'est leur particularité aussi qui est mise en avant dans le texte de leur corps sexué. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Regardez au verset 21. On parle de la création des grands serpents de la mer, de tous les êtres vivants qui glissent, qui grouillent dans les eaux. Et l'on précise « selon leur espèce ». Donc ce qui caractérise ici cette création, c'est que ce soit fait selon leur espèce. Regardez au verset 24, même chose pour les êtres vivants, les bêtes sauvages. Ils sont créés selon leur espèce. Verset 25, Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce. Les êtres vivants semblent donc caractérisés par cette précision selon leur espèce. Donc voilà, les chiens, les chats, ils vont se reproduire ensemble, mais pas en dehors, ça va fermer une espèce. Les bestiaux, selon leur espèce. On a cessé de répéter selon leur espèce. Mais quand on va arriver à l'homme et la femme, la précision qui va être dite, c'est « Dieu créa l'Adam à son image, à l'image de Dieu il le créa, selon son espèce ?» Non, mâle et femelle il les créa. La spécificité qui est mise en avant ici, si on peut dire, et qui est comme dans le texte en parallélisme avec le « selon leur espèce », c'est l'identité sexuée de l'homme et de la femme. Il y a donc une volonté explicite qui est manifestée dans le texte de reconnaître cette différence et de lui accorder du sens. De la reconnaître et de lui accorder du sens. Ça va spécifier l'image de Dieu. Et c'est intéressant de se rendre compte que lorsqu'on regarde le monde biologique qui nous entoure, on se rend compte qu'il y a de nombreuses façons de reproduire une espèce. Voilà, les paramécies, ça se reproduit par cytodiérèse, voilà, le noyau qui se sépare en deux, et puis ça va donner deux cellules. On a aussi des espèces de poissons, je crois que c'est des maquereaux, où selon les étapes de la vie, ils sont d'abord mâles, puis de femelles, puis ils peuvent redevenir mâles. On a les escargots, qui sont hermaphrodites. Il y a donc pas mal de variétés qui manifestent que, Dieu connaissait ces variétés, il les a faites. Mais ce n'est pas ces variétés qu'il a choisies pour l'homme et pour la femme. Pour l'être humain, il a été choisi cette spécificité homme et femme, mâle et femelle. Et ce sera caractéristique de l'image de Dieu. Donc ce n'est pas un élément accessoire, c'est pas un élément qui n'aurait pas de sens, c'est un élément qui est porteur de sens et qui est porté par une volonté explicite de Dieu. Ça apparaît dans cette expression de ce que Dieu fait. Et donc, ça vient saisir, comme je l'énonçais aussi, l'homme et la femme jusque dans leur corporéité. Ce n'est pas simplement être à l'image de Dieu, ce n'est pas simplement une disposition de l'âme. Ou plus exactement, c'est une vraie disposition de l'âme humaine qui est toujours l'âme d'un corps. Et ça signifie que l'âme humaine, c'est une âme d'un corps masculin ou c'est une âme d'un corps féminin. Il y a donc une disposition particulière au sein de l'âme humaine comme âme humaine masculine ou féminine. Ça ne dit pas tout de l'être humain, mais c'est une réalité spécifique de l'âme humaine. Elle est l'âme d'un corps. Et lorsque je m'avance un peu dans le mystère du Christ, et on parlera de la résurrection des corps, c'est donc la résurrection d'un corps masculin ou d'un corps féminin. Et donc c'est une propriété qui dure et qui dure en vie éternelle. Donc, l'identité qui nous est donnée a une signification pour donner l'image de Dieu, pour porter l'image de Dieu, pour réaliser cette image de Dieu, et une signification qui a une portée en vie éternelle. Donc on est, à travers cette spécificité de l'humanité désignés comme mâles et femelles, bien au-delà d'une ruse de la nature pour perpétuer l'espèce. Il y avait d'autres stratégies, ce n'est pas la stratégie qui a été choisie pour l'humanité, mais pour l'image de Dieu, cette distinction sera signifiante. Je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais continuer à être trop long. Et donc, retenons, j'allais dire, cette chose, une volonté de Dieu explicite qui va faire au cœur de l'être humain une image qui doit être composée du mâle et de la femelle. L'image de Dieu sera plus riche par les dieux. Cette union, si elle était l'image du Dieu communion d'amour, est pour une communion d'amour où il faudra faire une place à l'Esprit Saint. L'homme et la femme sont créés, corps et âme, et donc c'est dans tout leur être que leur spécificité, que leur image de Dieu va se déployer jusque dans la vie éternelle. Tous les deux sont interlocuteurs de Dieu, tous les deux reçoivent la bénédiction, tous les deux reçoivent la domination sur l'univers. Je laisse la place au Père de Mélo.
Et ce qui vient d'être dit par le Père Wurtz nous montre qu'il y a du coup un statut au fait d'être homme et femme. C'est un statut, ça a une valeur aux yeux de Dieu. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de débats actuels, il y a une affirmation que la féminité et la masculinité, ça n'existerait pas. Et possiblement, c'est partie du discours féministe tenu par ma cousine germaine, Caroline De Haas, qui affirme que la féminité, ça n'existe pas, que la masculinité, ça n'existe pas. Précisément, alors que pour... Le règne animal, on peut parler de mâle et de femelle, et que finalement l'auteur biblique ne s'y attarde pas plus que ça. Cette sorte d'évidence que nous sommes des êtres sexués semble intéresser l'auteur biblique. C'est étonnant, enfin, quand on réfléchit. Quand un enfant naît, on ne dit pas, alors voilà, cet enfant est né, et il est vraiment en bonne santé, il a de bonnes joues, on lui souhaite plein de bonnes choses. Non mais vous avez regardé entre ses jambes quand même. Première question, c'est une fille ou un garçon? C'est étonnant, mais une sorte de nécessité vitale. On peut pas. On a besoin de passer par ça, quoi. On a besoin absolument, une sorte d'étape obligée. C'est anthropologiquement, effectivement, comme l'a dit le Père Vieux, on n'est pas sur un élément partiel ou périphérique de notre humanité. On est sur un élément constitutif, central. Et donc, il y a une valeur, ça, aux yeux de Dieu, ça a un poids, ça a une importance, ça a un sens que nous soyons hommes et femmes, et il y a quelque chose à en faire et en vivre. Et puis, je trouve intéressant que cette question d'image à la ressemblance de Dieu associée à la communion que l'homme et la femme sont appelés à vivre précède la question de la fécondité, c'est-à-dire le « soyez féconds, multipliez-vous » vient après. Et la première finalité de notre identité d'homme et de femme, c'est d'abord de créer une communion d'amour. C'est pas d'abord d'avoir des enfants. La première raison d'être de notre identité d'homme et de femme, c'est justement de passer d'une simple image à une plus grande ressemblance. Et toute la théologie d'ailleurs en morale sexuelle de l'Église sur ce sujet, sur le fait que la finalité d'union de l'homme et de la femme et la finalité procréative de l'homme et de la femme sont indissociables, affirme toujours, met toujours en premier le fait que l'union c'est premier. C'est intéressant, c'est un but en soi déjà de s'aimer, c'est déjà une finalité de s'aimer. Créer une communion, c'est déjà une valeur fondatrice. On ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants, on se marie d'abord pour s'aimer, pour créer une communion. Alors, dans le deuxième récit de création, en Genèse 2, vous savez, il y a ce récit qui est plus archaïque, plus antérieur, mais qui a été mis en chapitre 2, après une sorte de grande période de copier-coller de différentes sources littéraires, peu importe. Et avec cette histoire de la côte d'Adam, vous voyez, enfin, vous vous souvenez, l'histoire, oui. ça vous dit quelque chose. C'est intéressant, c'est que il y a de l'humain qui est créé sur une tirée de la glaise du sol avec Dieu qui insuffle son rouard, c'est-à-dire son haleine, son souffle, ou c'est le mot qui veut dire aussi esprit. Donc il y a du divin quand même placé dans cette créature dont on ne dit pas grand-chose, mais on voit que Dieu lui donne un commandement. Voilà. Puis on ne nous dit pas grand-chose de lui. Moi, je l'imagine bien, ce gars, il n'est pas très contestataire. Il se remonte les manches. Non, il n'a pas de manches, il est tout nu. Donc, enfin, il se met au travail, il creuse un sillon, il creuse un puits, il construit un mur, je ne sais pas quoi. Il fait des choses. Il a une forme dans le jardin d'Éden où il est placé, où il a un arbre de vie au centre. Il sait qu'en mangeant de l'arbre de vie, bah, il va vivre, quoi. Bon, il a eu la prévention de Dieu qui lui a parlé d'un arbre de la connaissance du bien et du mal. On parlera de ça une autre fois. Bon, c'est marrant. C'est pas lui qui dit « Je m'ennuie, je me rase ici ». C'est Dieu qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est pas l'homme qui dit ça. C'est lui, pour l'instant, on ne l'a pas encore entendu, le gars. Enfin, évidemment, s'il est tout seul, il n'a personne à qui parler. Hein. Et ses attributs masculins, peut-être qu'il les porte avec une certaine forme d'autosatisfaction, comme les hommes sont capables de le faire. Enfin, tout ça n'a pas grand sens pour lui. Il a vraisemblablement probablement une puissance, parce que c'est intéressant, Dieu lui dit de garder, de cultiver ce jardin, donc une forme d'autorité, et puis une capacité à déployer cette puissance dans ce jardin, à cultiver, donc à porter du fruit. Vous voyez, donc il n'est pas inoccupé s'il doit garder, cultiver ce jardin. Mais il est seul, et lui, a priori, ça semble pour l'instant lui aller. Certaines épouses trouvent que, de fait, ça n'a pas beaucoup changé. Capacité masculine à s'auto-suffire dans leur bulle, vous voyez, enfin, dans leur monde, dans leur univers. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est que, du coup, Dieu lui fait faire une expérience. Et l'expérience, c'est qu'il va faire défiler devant lui tout le règne animal. Et il voit bien, en voyant défiler les coccinelles, les antilopes, les éléphants, les girafes et les baleines, que, en fait, c'est tout ça est sympathique, mais pas grand rapport avec lui, quoi. Il fait l'expérience d'une différenciation. Il fait l'expérience du caractère particulier et unique qu'il a vis-à-vis du règne du vivant, de tout le reste du vivant. Il se découvre un peu mieux lui-même. Il commence à sortir d'une forme d'indifférenciation. Il n'est pas simplement une créature tirée de la glaise. Alors c'est parce que Dieu a façonné toutes ces bêtes aussi de la glaise. N'a pas insufflé son haleine de vie, mais il a façonné ses. Donc, il voit toutes ces créatures tirées de la glaise, mais il voit bien que ça tranche, quoi. Il y a une ligne de fracture. Et Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme, que l'humain soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui corresponde. Aurait pu, après qu'il ait façonné les antilopes, les baleines et les coccinelles, dire maintenant je façonne la femme. Tu vas regarder et tu vas être assez intéressé de ce que tu vas voir. Comment je fais une femme? Et Dieu ne fait pas ça. Dieu, il le fait descendre dans un sommeil d'ensommeillement. Il y a une sorte d'expression en hébreu là. Enfin, c'est du gros, c'est du lourd, quoi. C'est vraiment, le gars, il le cale dans un fond de sommeil bien épais. Vous voyez. C'est-à-dire que Dieu va poser un acte qui va être invisible à l'homme, dont il ne sera pas le témoin. À tel point d'ailleurs que prenant une côte de une part de son côté, Dieu remet les chairs à sa place, on nous dit. Il remet les chairs, c'est-à-dire il masque ce qu'il a fait. Il n'y a même pas de cicatrice, il n'y a rien. Dieu, il remet les chairs à sa place. C'est un acte dont il importe qu'il soit invisible à l'homme. Et c'est intéressant, pourquoi est-ce que Dieu... Alors, on va dire, bah, très bien, mais effectivement, il ne pourra pas lui dire « je t'ai vu naître, ma poulette ». Il n'a pas, de, en quelque sorte, de surplomb sur l'acte de création de la femme. Comme il a un légitime surplomb sur le reste de la création. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu a pris de sa chair. Dieu aurait pu prendre une autre glaise du sol et insuffler son haleine de vie. Comme ça, traitement égal, quoi. Et Dieu ne fait pas ça. Il prend de sa chair. C'est-à-dire que Dieu part de la même et unique souche. Il y a une communauté de nature qui va fonder une communauté de destin. Il y a une unicité de la souche unique d'où ils sont tirés qui va conditionner l'unicité de leur dignité et de leur projet, de leur vocation commune. Et vous connaissez cette exclamation étonnante que certains ont traduit en hébreu par « Waouh !» C'est la première parole humaine dans la Bible. Avant, il n'y a pas de parole humaine, il y a Dieu qui a parlé, mais c'est la première fois que Dieu parle dans la Bible, que l'homme parle dans la Bible. C'est « Waouh !» C'est une exclamation. C'est une exclamation d'étonnement, d'éblouissement. C'est l'homme qui accède à la parole. Et Dieu qui a différencié la création, tout à coup fait jaillir quelque chose de nouveau, de neuf, en faisant jaillir la femme, jaillit la parole humaine. Et parce que jaillit la parole humaine lorsque la femme apparaît, à ce moment-là, le dialogue va pouvoir exister, et un langage pourra exister, une communication pourra exister, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que lui, ça lui saute aux yeux que c'est la chair de ma chair. Elle fut tirée de moi, celle-là. C'est-à-dire qu'il n'était pas là, tout ça, enfin, il était là, mais tout ça lui était masqué, mais il y a une sorte d'évidence qui, en quelque sorte, entre en contraste et percute l'expérience qu'il faisait quand c'était le règne animal qu'il voyait se déployer sous ses yeux. Il y a une sorte d'évidence là, que là pour le coup, ils ont beau pas être pareils, c'est du pareil. Il y a une communauté de nature, il y a une identité entre eux qui est flagrante et qui est fulgurante pour cet homme. Et c'est intéressant, c'est que on peut dire que en fait, il y a une sorte de profondeur de champ qui intervient dans l'expérience de cet homme, qui, on peut le dire, en quelque sorte, la première expérience spirituelle, qui est la capacité à se décentrer de lui et à rentrer à la limite, à sortir d'une sorte de face-à-face seul avec Dieu qui sait bien qu'il n'est pas de même nature que Dieu, donc le genre humain d'ailleurs s'est toujours dit qu'il y avait une puissance divine, alors on va acheter une sorte de paix des braves en faisant des sacrifices, mais quelque chose de sorte de c'est un peu le yin et le yang, c'est un peu de réalités qui sont en parallèle et qui ne sont pas appelées à se rencontrer, si vous voulez. Là, il fait une rencontre, quoi. Là, il expérimente par la femme l'altérité. Et c'est ce coup de bélier de l'altérité qui va lui permettre de comprendre probablement l'altérité avec le tout autre qu'est Dieu. La femme, c'est spécialiste de ce genre de coup de bélier. un jour elle rentre dans la vie d'un homme, et le gars, quand il se marie, il y a ses témoins de mariage autour, alors il retient ses larmes parce qu'il y a des témoins de mariage quand même, donc il essaie de garder une certaine contenance. Mais un jour la femme récidive, c'est une multirécidiviste de l'altérité, elle lui met un bébé dans les bras. Et alors là, c'est les grandes eaux de Versailles, là, c'est... D'accord ? C'est-à-dire qu'elle ramène, elle amène de l'altérité. Et elle sort le règne de l'homme de son isolement, et elle lui apprend que la communion fait du neuf, que 1 plus 1 finit toujours par faire 3, que le débordement est toujours au rendez-vous. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit que la vocation de la femme est probablement là. C'est que la femme, c'est celle qui fait advenir la parole et qui surtout donne le sens des choses. C'est-à-dire que lui, dorénavant, tout prend sens. Avant, il y a quelque chose qui était insensé. Pourquoi est-ce qu'il avait cet équipement physiologique, physique et sexuel ? À quoi ça servait tout ça ? Pourquoi cette puissance ? Pourquoi cette énergie ? Pourquoi cette... Et dans l'expérience d'émerveillement, la femme lui permet de comprendre que cette puissance lui est donnée pour se mettre au service de quelque chose de plus grand que lui. De quelque chose de beau. Quelque chose qui mérite même, qui aura assez de puissance pour l'arracher à sa terre natale. Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, dit l'Écriture. C'est-à-dire, il faut quand même quelque chose d'assez puissant pour nous arracher aux entrailles de notre mère. C'est pas rien de capable de nous arracher à ce lien viscéral. Il y a une sorte d'attraction qui, dorénavant, va le porter en avant, et il va dans cette relation qui est une aventure quand même, qui est aventureuse, qui le porte vers un monde, un autre monde que le sien, un monde plus inconnu que le monde qu'il connaît, que celui, que sa zone de confort qu'il est capable de se trouver, de se donner. Et il va rentrer dans cette altérité différenciée. Vous voyez, il n'est pas... dans une altérité du même ordre que lui, qui lui ressemble. Si je veux avoir tout le genre humain, il me faut un homme et une femme. Si je veux représenter le genre humain, il faut un homme et une femme. L'image à la ressemblance de Dieu, l'image devient de plus en plus ressemblance lorsqu'il y a ce risque couru de l'altérité différenciée. Un jour, je formais des éducateurs sur l'éducation affective et sexuelle, et on a fait venir une gynécologue, c'était très intéressant. Et elle nous expliquait quelque chose qui physiologiquement m'a paru très nourrissant et très instructif à ce moment-là. Elle nous expliquait que quand la tête d'un spermatozoïde rencontre un ovule, il y a un échange d'informations entre la coque externe de la tête du spermatozoïde avec la coque externe de l'ovule. Et que cet échange d'informations, qui monte au cerveau, enfin c'est tout un mécanisme que je ne saurais pas vous décrire, bref, que cet échange d'informations provoque le fait que l'ovule s'ouvre, laisse passer la tête du spermatozoïde, se referme derrière lui, le flagelle est libéré, les coques externes se retirent, et il y a la rencontre, et l'œuf, le premier noyau. Voilà. Quand on réfléchit à ça, ça veut dire une chose étonnante. Ça veut dire que nous avons un potentiel masculin et féminin en nous, la femme a un potentiel féminin et l'homme a un potentiel masculin, qui ne peut se déployer que par la rencontre de l'autre. Il y a quelque chose en moi qui ne trouvera son accomplissement, son efficience, que par quelque chose qui est dans le corps de quelqu'un d'autre. et pas de quelqu'un d'autre du même sexe que moi, de quelqu'un d'autre d'un sexe différent du mien. C'est intéressant, c'est-à-dire, c'est comme si nous avons chacun une application, un logiciel, qui ne sera effectif que par la rencontre d'un logiciel qui est différent. En général, Mac et PC, ce n'est pas compatible. Et quand vous savez que le trajet du spermatozoïde dans le corps de la femme, proportionnellement, c'est le trajet de la Terre à la Lune, en fait. C'est rigolo quand même de savoir ça. En fait, ça veut dire que cette rencontre, c'est l'entrée dans un autre système solaire. Quand un homme et une femme s'aiment, ils rentrent dans un autre système solaire. Ils partent dans une rencontre, dans une aventure qui les emmène bien au loin d'eux-mêmes et pourtant qui est bien l'aventure à laquelle ils sont appelés. Et c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose sur la différenciation homme-femme qui n'est pas une réalité juste culturelle ou artificielle ou construite, mais qui est bien profondément ancrée dans notre nature, dans notre identité d'homme et de femme, et le « il n'est pas bon que l'homme soit seul » reste une vérité intangible. Ça ne règle pas toutes les réflexions qu'on peut mener sur l'homosexualité, mais c'est intéressant comme sujet, et on pourrait en parler, mais ici, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il y a bien une différenciation homme-femme qui a une pertinence et une féminité et une masculinité qui n'est pleinement complète que par la féminité de l'autre ou la masculinité de l'autre. Qui ne trouve son déploiement possible que dans la rencontre de l'autre sexe. Et donc, il me semble intéressant de creuser sur ce que c'est que la féminité et la masculinité. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et je remarque que il devient parfois compliqué de parler de la féminité et la masculinité et que la manière par laquelle nous bottons en touche sur ce sujet, c'est très souvent de parler de parité dans le champ de la société. En fait, en invoquant le texte, évoquant cette question de la parité, on veut parler d'équité. C'est ça dont on veut parler. Et ce faisant, souvent on s'auto-censure sur notre capacité à dire ce que c'est que le féminin et le masculin. On dit que les choses doivent être paritaires, mais donc on ne s'interroge plus pour savoir qu'est-ce qui est spécifique à la femme et qu'est-ce qui est spécifique à l'homme. Ou alors, c'est devenu comme quelque chose de gênant d'évoquer la possible différenciation de l'homme et de la femme. Or, bibliquement, il sera intéressant de creuser, quand on parlera de la fécondité de l'homme et de la femme, de leur grâce propre, de creuser ce que c'est que cette féminité, cette masculinité, et de redonner une légitimité à cette féminité et cette masculinité. De ce point de vue-là, il y a certainement dans tout ce qu'a dit Jean-Paul II, dans ce qu'on appelait la théologie du corps, et probablement encore un angle mort qui reste à développer, il a bien pointé du doigt, très légitimement, le fait que la sexualité humaine a deux finalités qui sont intrinsèquement liées, finalité unitive, s'unir, et finalité procréative, donner la vie. Mais il me semble qu'antérieurement à ça, la première finalité de notre sexualité d'homme et de femme, c'est de nous dire que nous sommes hommes et femmes. C'est de nous dire que nous avons un être féminin ou un être masculin. Et il n'est pas inintéressant de creuser cette question de qu'est-ce que cela veut dire pour moi être masculin, qu'est-ce que ça veut dire être féminin. Et il y a quelques... En tout cas, ces questions peuvent amener à beaucoup de réflexions et aussi certainement beaucoup de guérison dans bien des cas, parce que ces questions n'ont souvent été pas assez creusées. Pour conclure, il me semble important de redire que le dessein de Dieu sur l'homme et de la femme, c'est de leur permettre de jouer une partition à deux qui va être créative et procréative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est procréative et créative, elle n'est pas stéréotypée. Parler du dessein de Dieu sur l'homme et de la femme, ce n'est pas les enfermer dans une sorte de contrainte pour le coup culturelle, sociologique, ou des constructions qui seraient postérieures et finalement qui invalideraient la question du féminin et du masculin. Mais c'est d'abord comprendre que Dieu lui-même se réjouit que nous soyons féminins ou masculins. Que Dieu le veut que nous soyons féminins ou masculins. Que Dieu aime que nous soyons féminins ou masculins. Et que nous sommes aimés à nous aimer nous-mêmes dans notre masculinité et dans notre féminité. Et que si nous ne nous aimons pas nous-mêmes dans notre masculinité et notre féminité, nous sommes condamnés peu ou prou à ne pas non plus aimer, estimer à sa juste valeur la féminité et la masculinité de l'autre, et du coup la construction de cette communion qui est appelée à être de plus en plus ressemblante à l'image de Dieu, sera plus ardue. Voilà probablement ce qui nous reste aussi encore à creuser, et pour nous-mêmes, que notre masculinité, notre féminité soit un chemin de bonheur. Voilà.
Masculinité et féminité comme un chemin de bonheur selon ce que Dieu établit. Alors en même temps, vous voyez que quand on regarde autour de nous, c'est une question qui est disputée, c'est une question qui est compliquée. Et ce sera la raison pour laquelle on vous invite à revenir la semaine prochaine pour regarder et pour pouvoir étudier justement la blessure de la masculinité et de la féminité. Mais comme nous ne sommes pas encore la semaine prochaine, il y a peut-être l'espace pour quelques questions que vous auriez envie de poser.